Chapitre 18e. Madame d'Infroville, revenue de la crainte dont elle avait été un moment agitée, dit à madame de Luceval : Florence, je t'écoute. Je n'ai pas besoin de te dire avec quelle curiosité, ou plutôt avec quel intérêt. Eh bien donc, ma chère Valentine, ce que mon mari ne t'a pas sans doute appris, car il l'ignorait, c'est que deux jours après ton départ, j'ai reçu une lettre de Michel. Et le but de cette lettre était tout simple. Sachant par toi que, pour dérouter les soupçons de ton mari, tu voulais me demander de t'écrire afin d'établir que nous avions eu de fréquentes entrevues. Michel, n'entendant plus parler de toi, fut très inquiet, s'informa, apprit que depuis 2 jours tu étais parti avec ta mère, mais il lui fut impossible de découvrir le lieu de ta retraite. Vrai, il s'est ému de ma disparition, dit Valentine avec un mélange de doute et d'amertume. Une fois, enfin, il est sorti de son apathie. Oui, oui, méchante, il s'est ému, et pensant que, t'ayant vu la surveiller, je serais peut-être mieux instruite que lui, il m'écrivit, me supplia de le recevoir. J'y consentis. Rien de plus naturel que sa visite, il était notre cousin. Mais ton mari? Il n'avait aucune objection à faire, ignorant que Michel fut l'objet de la passion qui t'avait perdu. En effet, monsieur de Luceval n'a su cela que par moi. Michel vint donc me voir. Je lui appris ce qu'il ignorait, la cruelle scène dont j'avais été témoin. Sa douleur me toucha. Elle était profonde et contrastée avec ce que je savais par toi de ce caractère ennemi du chagrin comme d'une fatigue de l'âme, et préférant au regret l'oubli comme moins gênant. Michel est-il donc changé à ce point que ce caractère ne soit plus le sien? Il est le sien, plus que jamais le sien, ma bonne Valentine. Michel est toujours, a toujours été le Michel que tu as connu. C'est pour cela, je te répète, que sa douleur m'a beaucoup touché. Nous sommes donc convenus que moi de mon côté, lui du sien, nous ferions toutes les tentatives possibles pour te retrouver. Il s'y est bravement résolu. Je dis bravement, parce que tu comprends ce qu'était pour un paresseux comme lui la perspective de tant de peine, d'embarras. Seulement, il s'est naïvement écrié « Ah, que je la retrouve ou non, c'est bien la dernière maîtresse que j'aurai. » Ce qui correspondait parfaitement, tu le vois, à ma terreur des angoisses auxquelles peut vous exposer l'inconvénient d'avoir un amant. Je trouvais en cela Michel rempli de bon sens et l'encourageais dans ses démarches pour te retrouver. Et ces démarches, vraiment, il les a faites avec une activité qui me confondait, car il me tenait au courant de tout. Malheureusement, les mesures de ton mari avaient été si bien prises que nous ne pûmes rien découvrir et de plus, nous ne recevions aucune nouvelle, aucune lettre de toi. Hélas, Florence, presque prisonnière dans une demeure isolée au milieu des bois, entourée de gens dévoués à M. d'Infroville, tout envoi de lettres m'était impossible. Nous l'avons bien pensé, ma pauvre Valentine. Mais enfin, il nous a fallu renoncer à l'espoir de retrouver tes traces. Et en t'occupant ainsi de moi, tu voyais souvent Michel, nécessairement. Et que pensais-tu de lui? Tant dire tout le bien que j'en pensais serait faire mon éloge, car chaque jour, je m'étonnais de plus en plus de l'inconcevable ressemblance qui existait entre son caractère, ses idées, ses penchants et les miens. Or, comme je ne suis pas d'une modestie farouche lorsque je cause avec moi-même, je trouvais que nous étions tous deux charmants. C'est alors que tu as pensé à te séparer de ton mari. « Qu'elle est donc mauvaise ?» dit Florence en menaçant du doigt son amie. « Non, madame, la cause de notre séparation est tout autre, car nous étions, Michel et moi, si fidèles à notre caractère qu'en parlant de toi, et conséquemment de toutes les algarades, de tous les soubresauts, de tous les émois que cause une liaison criminelle, comme disent les maris, nous nous écrions de la meilleure foi du monde. » Voilà pourtant, monsieur, où ça conduit l'amour. Jamais de repos, toujours sur le qui-vive, l'oreille au guet, l'œil inquiet, le cœur palpitant, rôdé, rusé, épié sans cesse. Et le dérangement, madame, et les séances dans la rue, à l'affût d'un signal, par la pluie et par la neige. Et les rendez-vous manqués, après 3 heures d'attente, monsieur. Et le tracas des duels, madame. Et les tracas de la jalousie, monsieur. Et les courses furtives dans d'horribles fiacres. Où l'on est moulu, brisé. Ah, que de peine, que de fatigue, madame. Et je vous le demande un peu, au résumé, pourquoi? C'est ma foi vraie, monsieur, pourquoi? Enfin, je t'assure, Valentine, reprit gaiement Florence, que si un démon caché eût écouté nos moralités paresseuses, il eût ri comme un fou, et pourtant nous raisonnions en sages. Vint le moment où M. de Luceval entreprit de me faire voyager malgré moi. Cette fantaisie lui passa. Oui, il m'a dit au moyen, il était singulier, mais efficace. Que voulais-je à cette époque ? Le repos. Car bien que mon mari eût été très dur, très brutal envers moi lors de la scène de ta lettre, ma pauvre Valentine, et que je l'eusse alors menacé d'une séparation, toute réflexion faite, je m'étais amendé, reculant devant la pensée de vivre seul, c'est-à-dire d'avoir à m'occuper de 1000 soins dont mon mari ou mon intendant s'occupait pour moi. Je bornais donc mes prétentions à ceci, ne jamais voyager, encourager mon mari à voyager le plus souvent possible, afin de n'être pas continuellement impatienté par ses agitations. Et pouvoir recevoir Michel à ta guise, c'est entendu, et cela bien à mon aise, sans le moindre mystère, sans avoir à me donner la peine de rien cacher, car rien n'était à cacher dans nos relations. Toujours la vertu de la paresse, chère Valentine, mais ce n'est rien encore. Tu sauras tout à l'heure quelle merveille elle peut enfanter, cette chère paresse. Je te crois. Et cette séparation, m'a dit ton mari, fut réellement amenée par la perte de ta fortune. Cela en a été le vrai motif. Voyons, Valentine, franchement, être désormais à la merci de mon mari, à ses gages, pour ainsi dire, est-ce que je pouvais admettre cela ? Non, non. Je me rappelais trop les humiliations que tu avais souffertes, pauvre fille sans fortune, en épousant un homme riche. Non, non. La seule pensée d'une vie pareille révoltait ma délicatesse et ma paresse. Ta délicatesse, soit, mais ta paresse, Florence, comment cela ? Ne te fallait-il pas renoncer à ce luxe, à cette richesse qui te permettait d'être paresseuse tout à ton aise ? De deux choses l'une, Valentine, si je restais au gage de M. de Luceval, il me fallait complètement sacrifier mes goûts aux siens, me lancer dans son tourbillon d'activité, y aller au Caucase s'il avait eu cette fantaisie. Or, j'aurais, je crois, préféré la mort à cette vie-là. Mais pourquoi, au contraire, n'avoir pas imposé tes goûts à ton mari, profitant de l'empire que tu avais sur lui, car il t'aimait et... Il m'aimait, oui, comme j'aime les fraises, pour les manger. Mais d'abord, je le connais. Il ne pouvait pas plus changer son caractère que moi changer le mien. Le naturel eut chez lui repris le dessus, et tôt ou tard, notre vie eût été un enfer. Je préférais donc me séparer tout de suite. Et Michel fut-il prévenu de ta résolution ? Il la trouva des plus convenables. Ce fut à cette époque que lui et moi nous fîmes quelques vagues projets pour l'avenir, projets d'ailleurs toujours subordonnés à toi. À moi ? Certes, Michel connaissait ses devoirs, il les eut accomplis, s'il fut parvenu à te retrouver. Aussi, pendant qu'il se livrait à une dernière recherche, je m'occupais de mon côté d'arriver à la séparation que je voulais obtenir. Je priais Michel de cesser ses visites jusqu'à ce que je fusse libre. Sa présence m'eût gêné. Mon mari t'a dit sans doute ? Comment tu étais parvenu à forcer sa volonté par ton silence obstiné ? Il était impossible, j'espère, d'employer un moyen plus doux et de meilleure compagnie. Enfin, au bout de 4 mois, j'étais légalement séparé de M. de Luceval et il partait en voyage. Je revis Michel. Il n'avait, non plus que moi, aucune nouvelle de toi. Renonçant à l'espoir de te retrouver, nous revînmes à nos premiers projets d'avenir. Notre détermination fut arrêtée. Je t'ai tout à l'heure, ma chère Valentine, parlé des prodiges que peut enfanter la paresse. Ces prodiges, tu vas les connaître. Je t'écoute. Mon intérêt et ma curiosité redoublent. Voilà quel fut notre point de départ, ou si tu veux, ajouta Florence en souriant et faisant une petite mine solennelle, la plus drôle du monde. Voici notre déclaration de principe à nous deux. Pour nous, il n'y a qu'un désir, qu'un bonheur au monde, la parfaite quiétude de corps et d'esprit, appliquée à ne rien faire du tout, si ce n'est à rêver, à lire, à s'aimer, à causer, à regarder le ciel, les arbres, les eaux, les prairies et les montagnes du bon Dieu, à se bercer à l'ombre en été, à se chauffer durant la froidure. Nous sommes trop religieusement paresseux pour être glorieux, ambitieux ou cupides, pour rechercher le fardeau du luxe ou les fatigues du monde et de ses fêtes. Que nous faut-il pour vivre dans ce paradis de paresseux que nous rêvons ? une petite maison bien close en hiver avec un jardinet bien frais en été, d'excellents fauteuils, des hamacs, des nattes pour nous y étendre, de beaux points de vue à la portée de notre regard pour ne point nous donner la peine d'aller les chercher, un beau ciel, un climat doux et riant, une nourriture frugale, nous ne sommes gourmands ni l'un ni l'autre, et une servante. Il faut surtout que cette vie soit bien réglée, bien assurée, afin que nous n'ayons jamais l'esprit troublé par des préoccupations d'affaires. Tel était l'unique objet de nos désirs. Comment les réaliser? C'est là que nous avons fait des efforts de génie et de courage. Écoute et admire, ma bonne Valentine. Je t'écoute, Florence, et je suis bien près d'admirer, car il me semble que je devine un peu. Ne devine rien, laisse-moi le plaisir de te surprendre. Je poursuis. La nourrice de Michel est provençale et native d'hier. Elle nous parla de la beauté de son pays où l'on vivait, disait-elle, presque pour rien, affirmant que l'on pouvait y acheter, pour 10 à 12 000 francs au plus, une maisonnette comme nous la désirions, sur le bord de la mer, avec un joli jardin planté d'orangers. Justement, un des amis de Michel était établi ailleurs pour sa santé. Il fut chargé de prendre des renseignements. Ils confirmèrent ceux de la nourrice de Michel. Il se trouvait même alors, à 2 lieues d'hier, une petite maison du prix de 11 000 francs, admirablement située. Mais elle était louée pour 3 années encore. L'on ne pouvait en jouir qu'à l'expiration du bail. Plein de confiance dans le goût de l'ami de Michel, nous le priâmes d'acheter la maison, mais là était la grande difficulté, le nœud de notre situation. Pour l'acquisition de la maisonnette et pour l'achat d'une rente de 2 000 francs suffisant à nos besoins, il nous fallait 60 000 francs environ afin d'avoir au moins, outre cela, 2 ou 3 000 francs d'avance. Or, ma bonne Valentine, le tout était de trouver les bienheureux 60 000 francs, une grosse somme, comme tu le vois. Et comment avez-vous fait? Il me restait à moi près de 6 000 francs en or que j'avais, lors de mon mariage, demandé sur ma dot. Un ami de Michel se chargea de liquider ses déplorables affaires. Il en retira 15 000 francs. Ces sommes furent placées. Nous résolûmes d'y toucher le moins possible, jusqu'à ce que nous fussions en mesure de gagner les 40 000 francs dont nous avions besoin pour arriver à notre paradis. Gagner? Comment pouviez-vous espérer gagner une si forte somme? Eh, mon Dieu, en travaillant, ma chère, dit Florence d'un air conquérant, en travaillant comme des lions. Toi, travailler, Florence? S'écria Valentine en joignant les mains avec surprise. Toi, travailler? Michel aussi? Michel aussi, ma bonne Valentine, oui. Nous avons travaillé presque nuit et jour, en acceptant les plus drôles de métiers du monde, et cela pendant plusieurs années. Toi et Michel capables d'une pareille résolution? Comment cela t'étonne? Si cela m'étonne, grand Dieu! Voyons, Valentine, souviens-toi donc combien nous étions paresseux, moi et Michel. Et c'est cela même qui me confond, cette paresse. Mais au contraire! Au contraire, certainement. Songe donc quel excitant, quel aiguillon c'est que la paresse. La paresse? La paresse? Tu ne comprends pas quel courage, quel élan, quelle ardeur cela vous donne de se dire à la fin de chaque jour, quelque harassé que l'on soit, quelque privation que l'on ait endurée, encore un pas de fait vers la liberté, l'indépendance, le repos et la volupté de ne rien faire. Oui, Valentine, oui. Et la fatigue même que l'on ressent alors vous fait songer, avec plus de délices encore au bonheur ineffable dont on jouira plus tard. Eh bon Dieu, tiens, c'est en petit, et appliqué à la vie réelle, le procédé des joies éternelles achetées par les douleurs d'ici-bas. Seulement, entre nous, j'aime mieux tenir mon petit paradis sur terre que d'attendre l'autre. Madame d'Infreville fut tellement stupéfaite de ce qu'elle apprenait, elle regardait son amie avec un tel ébahissement, que Florence, voulant lui donner le temps de se remettre d'une si profonde surprise, garda un moment le silence.